Bonjour à toutes et tous. Donc, vous êtes bien sur Détournement Féministe, donc sur Radio Campus Tour, 99.5 FM. Nous revoilà en studio, ça fait quand même 6 mois qu'on n'est pas venu, donc on est super contente d'être là. Donc on est 4 ce soir. Donc il y a Béné et Raph à la technique, merci à elle. Et donc il y a moi, donc Audrey et Meryl, donc autour des micros pour une émission qu'on a préparée à deux et que ça fait un petit moment qu'on avait à cœur de monter. Donc, qui parle vraiment de nos situations personnelles et professionnelles, du coup. Donc, on va parler boulot ce soir. Ça nous arrive pas tout le temps, mais là, c'est parti. Alors, donc, en fait, cette émission, donc, on parle de nos boulots parce qu'ils sont un peu spéciaux, entre guillemets, pour des meufs. Et c'est pour ça qu'on a eu envie d'aborder cette émission et cette thématique. Donc, en fait, on fait des boulots qui sont socialement plutôt acceptés ou, en tout cas, réalisés par des hommes. Et donc pour vous illustrer un peu ça, on va se présenter directement pour que vous voyez un peu le contexte de quoi on parle. Donc du coup moi, je suis en cours d'installation sur une ferme, donc en agriculture. Ça va faire un an maintenant que j'ai décidé de passer le cap, de m'installer. Et je m'installe sur la ferme, donc avec mon compagnon, sur la ferme sur laquelle il bosse depuis 10 ans et même sur la ferme sur laquelle il a grandi parce que son père était déjà paysan. Et je travaille aussi, on a un salarié qui travaille avec nous à mi-temps et qui est aussi un homme et qui a aussi une grande expérience agricole depuis longtemps. Et donc voilà, moi qui débarque dans ce cadre-là, un peu paumé, mais on va revenir là-dessus. Donc voilà, Meryl, si tu veux présenter.
Oui, bah, bonsoir à toutes et à tous. Et donc moi aussi, je travaille plutôt en extérieur et je suis paysagiste et jardinière. Donc je travaille à la fois comme conceptrice en dessin et sur des chantiers pour construire des jardins, souvent en chantier participatif et aussi avec des collègues professionnels paysagistes ou d'autres corps de métier. Et donc je suis à mon compte, je fais partie d'une coopérative d'activité d'emploi, mais on va dire que mon activité et dans mon quotidien, je fonctionne comme une indépendante. Et donc sur les chantiers, je travaille à la fois avec des professionnels et des non-professionnels. Hommes et femmes.
Et donc si on a eu envie d'aborder ça, c'est parce que bah, nos métiers ils nous plaisent en fait, on est quand même contente d'être là et on s'était dit qu'on avait aussi envie de partager ça. On est contente d'avoir passé un peu les caps de faire ces métiers-là, mais c'est pas pour autant qu'on rende compte pas des difficultés. Et en fait du coup on a envie de parler de ça parce que c'est une thématique où même nous on trouve pas toujours des ressources en fait pour discuter de ça peut être difficile pour une meuf de faire ce type de métier. Et aussi parce qu'on a envie de se donner de la force et puis de donner de la force à des meufs qui auraient envie de se lancer dans des métiers comme ça, mais qui se posent tout plein de freins et tout plein de questions et envie de leur dire que non, il faut y aller en fait. Et enfin, parce qu'on a aussi assez peu d'espace pour en discuter. On est toutes les deux indépendantes, donc on n'a pas forcément des collègues vraiment directs comme des meufs qui bossent dans le bâtiment ou dans d'autres types de corps de métier plutôt socialement attribués aux hommes peuvent avoir. Et alors moi, dans le monde agricole, donc je suis pas encore assez rentrée dans les réseaux syndicaux, etc. pour avoir cet espace-là, mais je pense que ce serait plus facile en agriculture, alors que toi, Meryl, c'est beaucoup moins le cas. Quoi.
Oui, alors par le fait que je fais partie d'une CAE, donc d'une SCOP, j'ai beaucoup de collègues, mais qui ne sont pas forcément dans mon corps de métier paysagiste. Et donc, plutôt dans cette profession paysagiste, on a pas beaucoup de regroupements syndicaux, ni même de représentations collectives. Et donc, on réfléchit assez peu collectivement. C'est pas trop dans la culture du métier de réfléchir aux pratiques et à la manière dont on le fait. Et donc ça, c'est vrai que ça permet pas forcément d'être en échange et en discussion, et en particulier sur cette thématique des inégalités de genre. Donc c'est vrai que depuis que je travaille, moi, je me rends compte que... Enfin, alors, je suis dans un cas de figure qui est un peu particulier, avec pas beaucoup d'équivalents, puisque j'ai un type d'activité et une manière de la pratiquer qui sont pas non plus très représentatives de mon corps de métier, on va dire. Mais j'ai vécu un grand nombre de situations un peu particulières qui sont des fois difficiles liées au fait que je sois une femme plutôt jeune. Et j'en discute parfois avec d'autres collègues et amis, mais ça m'intéresse de continuer à le faire. Et je trouve que c'est intéressant qu'on se regroupe autour de nos types de métiers, on va dire, avec des grosses ressemblances comme ça. pour qu'on puisse voilà, se renforcer et améliorer les pratiques et améliorer aussi nos modes de travail en fait.
Ouais. Et du coup, on avait juste envie de dire que ben, on a décidé un peu collectivement avec le reste du crew radio de l'aborder que toutes les deux et du coup d'aborder le volet pro. Mais dès le début, avec Meryl, on s'est dit qu'il y avait tout le volet perso dans lequel en fait il y a plein de choses qui se recoupent. Moi, avant de me poser la question en agriculture, j'ai commencé à faire du jardin il y a 3 ans. Je savais rien faire et j'ai fait face à des choses assez similaires en fait en termes de tout ce qu'on peut y vivre. Donc voilà, donc c'est juste pour dire qu'on a choisi cet angle-là pour cette émission, mais on pourra en faire d'autres.
Et donc pour un peu attaquer le cœur de cette émission, on va dire, on va commencer par les difficultés qu'on rencontre dans nos métiers, parce qu'en préparant cette émission, on a eu assez vite envie de parler de ce qui est difficile pour nous dans nos activités, donc qui sont dans des univers plutôt à dominante masculine, et les rapports de genre et quelles situations sont mal vécues avec leurs différences, leurs variantes. Plutôt entre des fois des inégalités, des difficultés ou des incompréhensions, et de quelles origines elles peuvent être issues. Donc voilà, c'est un peu là-dessus qu'on va commencer à discuter. Alors peut-être par la première chose qui se pose en premier souvent, c'est la question de nos capacités physiques et de la force. On va dire que ces capacités, elles sont souvent remises en question, en fait, voire niées parfois dès le début, et qu'il faut souvent en faire la preuve. Ça, c'est un constat qu'on a fait un peu toutes les deux, puis en discutant avec d'autres personnes aussi, on se rend compte que c'est assez commun. Il faut un peu qu'on se place, qu'on fasse la preuve de ce qu'on sait faire, et qu'il faut un peu qu'on évite aussi qu'on nous vole notre travail, entre guillemets, puisque le positionnement des hommes peut être un peu de porter les charges lourdes, d'utiliser les machines, enfin, de faire des choses qui peuvent paraître compliquées et physiquement et un peu techniquement, et qui il faut voilà, un peu se positionner là-dessus pour nous dans un premier temps.
Oui, carrément, c'est sûr que moi je le vois. Hein, je débarque sur une ferme où c'est bah, 2 mecs qui bossent depuis un moment. Mon compagnon, il a appris son boulot avec son père. Et en fait, moi je peux pas porter des sacs de 40 kilos. Donc très rapidement, en fait, je vais expliquer que bah, pour moi ça va pas le faire et puis que j'ai pas l'objectif de me casser le dos dans les 5 ans en fait. Et qu'il y a d'autres méthodes à mettre en place pour que je puisse moi aussi prendre une place sur tout ce qui est charge physique. Ou autre quoi.
Oui, moi je pense aussi avoir un peu vécu ce genre de situation régulièrement, avoir dû dire un certain nombre de fois non ou m'imposer pour porter ou faire ce qui paraissait difficile. Il y a toujours une sorte de galanterie qui reste un peu et le doute permanent sur le fait qu'on va y arriver. Excusez-moi, j'ai la voix un petit peu cassée parce que je suis enrhumée ce soir, donc je vais devoir faire des petites pauses dans la discussion.
Du coup, moi, c'est aussi quelque chose que j'ai vu donc avec le salarié qui travaille avec nous, une petite anecdote là de il y a pas si longtemps que ça. Donc, il fallait qu'on mette ce qu'on appelle des jumelages. Donc, en fait, c'est sur un tracteur, il y a 2 roues à l'avant et en fait, on rajoute 2 autres roues pour diviser un peu la charge quand on va au champ. Et donc, Cyril, donc Zorab était en train de faire quelque chose et Cyril me dit, bah tiens, si tu veux, on monte les jumelages. Et là, je vois Zorab arriver en courant et venir prendre la roue à ma place, en fait. Et là, je me dis, oh mon Dieu, c'est pas possible. J'ai eu le réflexe de partir en fait. Je crois que j'ai pas eu envie de me confronter à ça. Après, j'étais bien contente parce qu'ils y arrivaient pas. Et c'est moi qui ai trouvé la solution de le monter sur une petite cale pour qu'on y arrive mieux. Donc, mais voilà, c'était assez révélateur de ce qu'on peut vivre au quotidien, quoi.
Moi, ça m'a fait penser aussi à un exemple d'un chantier avec des bénévoles pour faire un terrassement, pardon. Et j'ai dû jouer un peu des coudes pour accéder à la pioche et la manier. Et il n'y a qu'une fois que j'ai fait ça que les personnes m'ont regardé autrement en me disant bah, qu'on voit que tu es habituée à faire ça. Alors que je l'avais dit depuis le début que j'étais habituée à faire ça. Et du coup, enfin, je me suis dit, bah, tant qu'ils m'ont pas vue en action, en fait, ils n'ont pas intégré que j'étais capable de piocher longtemps et de creuser un gros trou. C'est un peu bête, mais. Et c'est un peu pareil pour le maniement d'outils comme par exemple la tronçonneuse ou des outils un peu physiques et techniques. Et du coup, la mise en action, elle modifie ensuite le rapport qu'on a avec les autres personnes sur le chantier. Pardon.
Carrément, et c'est vrai qu'on s'est dit qu'au-delà des aspects physiques et techniques, donc on a les freins, parce que de base, on va penser qu'on n'est pas forcément capable. Hein, et puis, il y a un autre volet qui est aussi sur la capacité à prendre des décisions, la capacité à en fait, devenir un peu chef de chantier. Et du coup, qui peut être aussi remise en question, en fait, ou dans des réunions, ou dans des prises de décision à deux, en fait, on va moins prendre nos idées, ou nos propositions, ou nos réflexions au sérieux, et qu'en fait, c'est pas toujours facile de pouvoir prendre sa place et dans le concret, et même dans la préparation en amont et dans la prise de décision, quoi.
Oui, c'est vrai que sur cette question de la prise de décision technique, face à des collègues ou à des clients ou à des supérieurs, j'ai un exemple sur un chantier privé où on a convenu avec un client qu'il faut faire un travail de moyenne œuvre, un peu petit abattage, broyage, etc. Et suite à une conception que j'avais faite. Et pourtant, j'avais déjà travaillé en chantier pour ce client. Mais pas avec ce type d'action, plutôt pour du jardinage. Et je lui avais proposé de faire le chantier moi-même, mais il m'entendait pas. Et donc il proposait de faire appel à une plus grosse boîte de TP. Il avait l'impression que le chantier était beaucoup plus gros que ce qu'il paraissait. Enfin, bref, on a dû discuter assez longtemps et j'avais un mal de chien à ce qu'il m'écoute. Et au bout d'un moment, mon dernier argument, c'était mais j'ai le matériel. Et à quoi il a répondu en souriant, ah bon? Donc je passe sur les détails, mais il a carrément fallu que je lui dise quel était mon matériel pour qu'il comprenne que c'était du matériel professionnel qui conviendrait au chantier, et finalement j'ai pu faire le chantier. Donc voilà, il faut vraiment faire la démonstration technique et argumenter, et j'ai l'impression parfois qu'il faut quand même le faire très longtemps pour qu'on nous croie.
Et du coup, c'est un peu ce qu'on se disait, quoi. Alors, des fois, ça peut être... Moi, c'est vrai que dans mon cas, comme je travaille quand même avec quelqu'un que je connais bien, c'est ce qu'on se disait avec Meryl. Au final, quand tu commences à connaître les mecs avec lesquels tu travailles, ils finissent par accepter un peu ta légitimité et enfin, au fur et à mesure, avec l'expérience, de voir que oui, tu gères et que ça le fait. Et on se disait, c'est vraiment très difficile dans des cas où tu débarques dans des espaces où tu connais pas les mecs et où ils te connaissent pas et où en fait, ils partent du principe que tu vas pas y arriver. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un peu ce volet-là, quoi, et où au final, on se dit souvent qu'on est content d'être indépendant parce qu'il y a des aspects sur lesquels on peut choisir aussi les gens avec lesquels on travaille, et du coup, bah, si vraiment ça le fait pas, en fait, bah, tant pis, ça le fait pas, quoi. Là où, en tant que salarié, tu peux pas toujours vivre ça. Et du coup, on se disait que c'est aussi hyper dur parce que on est tout le temps remis en question, en fait, enfin remis en question, et il y a un doute qui se met régulièrement en place et qui va même t'amener des fois à pas faire des choses parce que bah tu vas finir par croire que les gens ils ont raison en fait et que t'es pas trop capable de faire. Et on se disait que ça peut être hyper dur pour des meufs en début de parcours pro où en fait t'es formée, t'essayes d'avoir confiance en toi et tu débarques sur des endroits où on n'a pas confiance en toi en fait et en effet ça peut rebuter plus d'une meuf à y aller quoi. Du coup, c'est bon. Alors, du coup, ce qu'on voulait dire, c'est on voulait conclure un peu cette première partie sur la difficulté qu'on a donc physiquement, techniquement, sur notre prise de décision, sur le fait que souvent, on se retrouve à se forcer à faire tous les trucs les plus durs, en fait. On va pousser nos corps, on va vraiment avoir besoin de prouver qu'on est capable. Et du coup, bah, finalement, il y a des situations où le sac à 40 kilos, bah, tu vas quand même le porter, alors que tu sais, dans le fond, que c'est débile, que ça sert à rien, mais tu as envie de prouver, en fait, que tu vas être capable de faire, même si ça peut te mettre presque en danger, quoi.
Oui, et quitte à se faire mal ou à aussi aller un peu au-delà de nos capacités physiques, en fait, par exemple lors de phases où on est très fatigué, où nos corps sont peut-être moins capables aussi, je pense à quand on a ses règles, ou après une grossesse, ou à des périodes où on se pousse un peu à ignorer la fatigue et à ne pas dire qu'on est dans un sale état ces jours-là sur les chantiers, juste pour montrer quoi, pour prouver qu'on doit pas être catégorisé comme faible. Donc voilà, ça peut être assez important et c'est très intériorisé aussi. Enfin, moi je me le dis à moi-même en fait, puis après je me dis bah non quand même.
C'est un peu dommage. Donc voilà, on va faire une petite pause musicale avec les Famous T. Et je me souviens plus du titre.
Parité.
Parité, c'est parti.
Spécial. spécialement dédicacée aux routières, aux câblières, infirmières, jardinières, pâtissières, tapissières, biscoutières, joaillières, téléphonistes et machinistes, aux fleuristes, aux choristes, aux urbanistes, aux ébénistes, aux pépiniéristes, aux satiristes, aux coloristes, aux courriéristes, aux chimistes, aux hygiénistes, aux trompettistes, aux trapézistes. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. Dédicacé aux géologues, psychologues, sociologues, sinologues, philologues, écologues, graphologues, archéologues, paléologues, marinières, infirmières, aux couturières, aux façonnières, aux gantières, aux lingères, aux ménagères, aux guichetières, aux secrétaires, aux romancières, aux aventurières, vas-y, continue la liste. Téléphoniste, machiniste, économiste, violoniste, étalagiste, paysagiste, métallurgiste, aquarelliste, carriériste, archiviste, journaliste et modéliste. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. Dédicacée aux serveuses, aux chroniqueuses, aux visiteuses, aux chercheuses, aux enquêteuses, aux ajusteuses, aux acheteuses, aux chanteuses, aux danseuses, inspectrices ou perforatrices, dessinatrices, créatrices, animatrices, opératrices, réalisatrices, productrices, éducatrices, monitrices, compositrices, cantatrices, galériennes, magiciennes, aux historiennes, bohémiennes, aux grammairiennes, aux physiciennes, aux techniciennes, aux gardiennes, aux électriciennes, aux mécaniciennes, aux comédiennes, aux pharmaciennes, aux musiciennes, aux pharmaciennes. À toutes celles saisonnières, aux céréalières, aux journalières, qui pour un travail égal, à celui qui font le mal, la qualification égale, touche moins, c'est pas normal. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler.
Donc voilà, vous êtes de retour dans Détournement féministe, donc sur Radio Campus Tours 99.5 FM. Donc voilà, on aime bien cette chanson parce que bah, elle vient bien mettre en évidence ce qu'on vit au quotidien et qu'on en effet, on n'en est pas arrivé là où on aimerait. Donc voilà, après avoir donc démarré l'émission sur les difficultés qu'on rencontre au quotidien, moi j'avais envie de parler d'une autre des difficultés qui vient se rajouter à ça en fait, mais qui est plus liée à moi en fait, bon, même si on verra qu'elle est, elle est construite, mais mine de rien c'est un truc qui m'a beaucoup interrogée ces derniers mois. Parce que, en fait, c'est un sentiment un peu chelou qui m'arrive assez régulièrement depuis que j'ai décidé de m'installer. Donc, je vais vous prendre un exemple très concret qui va me permettre d'illustrer donc, ce qu'on a réussi à formuler avec Meryl sous la question de la difficulté de la mise en action. Donc, c'est qu'en fait, on passe notre temps à se forcer, à y aller, à vouloir aller sur tout pour montrer qu'on est capable, etc. Mais moi, ça m'arrive assez régulièrement, en fait, de pas réussir à y aller, justement, et sans comprendre pourquoi. Et du coup, l'exemple concret un peu drôle que j'ai à vous raconter, c'est il y a quelques semaines, je casse la vitre arrière d'un des tracteurs de la ferme, donc, parce que je sais pas encore très bien me servir du lève-palette, enfin bon, bref. Donc, un truc pas très grave, il y a juste les charnières à changer sur la vitre, et je dis à mon compagnon, alors par contre cette fois-ci, parce que je l'avais déjà fait en fait l'été dernier, petite anecdote autre, et je l'avais pas réparé à cette époque-là, et là je dis à mon compagnon, par contre c'est moi qui gère, j'achète les pièces, je commande les pièces, je vais les chercher, et je remplace la vitre. Et puis bah, les semaines passent et puis bah, c'est Cyril qui finit par aller acheter les pièces et puis c'est lui qui finit par en fait remonter la vitre du tracteur parce que bah, on a besoin de s'en servir et qu'il va y avoir de la poussière et qu'on a besoin d'une vitre en fait. Et là je crois que ça a été vraiment un moment où je me suis dit mais tain, c'est ouf quand même, j'étais sûre de moi, j'étais sûre que je voulais y aller, j'avais vraiment affirmé le fait que non, cette fois-ci c'était moi qui faisais parce que je voulais apprendre à faire et en fait c'est moi qui fais pas finalement. Et du coup j'ai réalisé qu'en fait ces trucs là ça m'arrivait assez souvent et qu'en fait c'est pas, et en fait je dirais que c'est même pas forcément le contexte parce que mon compagnon, à force qu'on travaille ensemble et qu'on travaille sur ces questions là il est pas mal en soutien, donc ça vient pas forcément de lui non plus, enfin je pense qu'il m'a donné tous les moyens pour le faire et il m'a surtout pas, enfin il l'a fait parce qu'on avait plus le choix de le faire mais pas parce qu'il l'a fait à ma place. Et en fait je réalise que il y a des moments ça vient de moi en fait, c'est pas parce que c'est trop dur, c'est pas, je pense que j'ai un blocage en fait que j'arrive pas encore totalement à comprendre, mais qui en tout cas a lieu souvent. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que à la fois cette difficulté de mise en action, elle me bloque par moments, mais à la fois je sens que c'est aussi face à ce truc-là que j'ai réussi à passer le cap de faire le métier que je fais aujourd'hui, parce que au début du confinement l'année dernière, on est enfermé à la ferme et je me dis bah tiens je vais faire des aromatiques et pareil je ne le fais pas, mon bac à aromatique hyper facile alors qu'on avait tout le matériel, l'atelier etc. Et il y a un jour je me dis bon bah maintenant André tu vas y aller en fait, tu vas te faire confiance et tu vas prendre ta visseuse et tu vas y aller en fait. Et en fait j'ai réussi à faire ces bacs sans problème et je pense que ça a été un déclic dans ma tête de me dire bah, en fait si t'es capable de faire ça bah tu seras capable de conduire un tracteur, tu seras capable de réparer de la mécanique et il faut juste que t'aies confiance en fait. Donc c'est assez bizarre comment il y a des fois ça me refreine, il y a des fois c'est ce qui me permet d'y aller. Et en fait je réalise que mine de rien le faire dans le pro, il y a des fois t'as pas le choix, t'es obligé d'y aller en fait parce qu'il y a un truc qui pète et tu dois le faire en fait. Et du coup ça m'aide aussi dans le perso à trouver cette confiance et à avancer là-dessus quoi.
Dans le pro et dans le fait d'être aussi indépendante, enfin c'était un sujet qu'on a dit tout à l'heure, mais dans le fait qu'il faut aussi se motiver toute seule pour faire des choses et du coup se booster. Donc c'est un peu les deux énergies avec lesquelles il faut composer.
Carrément. Mais et du coup, qu'est-ce qu'on s'était dit qu'on dirait un truc là-dessus ? Oui, on s'était dit que ça vient surtout, je pense qu'au-delà de la capacité à faire, au-delà du fait de savoir faire, c'est vraiment un manque de confiance en fait en nous-mêmes qui fait que t'arrives pas à passer ce cap-là. Et du coup, on se disait que c'était une situation qui était ce qui nous amenait des fois en fait à un peu paradoxalement à se forcer à faire tout en fait, comme on le disait un peu tout à l'heure, on va toujours se forcer à faire plein de choses etc. Mais il y a un moment où moi je me demande si il y a des choses je les fais pas, c'est juste parce que j'ai pas envie de les faire ou que j'aime pas faire ça. Moi je sais que la mécanique ce sera jamais mon truc, mais je me force à en faire et du coup il y a des fois j'ai des difficultés de me mettre en action autour de ça. Et en fait c'est ce qu'on se disait avec Meryl, il y a des fois c'est compliqué en fait de pas savoir, à force de se forcer à faire, de plus savoir en fait vraiment ce que t'as envie de faire ou pas. Et s'il y a des fois si tu fais pas, c'est peut-être juste parce que t'as pas envie ou t'aimes pas ce truc là quoi.
Oui c'est clair. Bon, après, on se disait aussi que c'était une situation qui était d'autant plus complexe quand on est en mixité, parce que les mecs ont en général un peu moins peur de se lancer, même s'ils ne savent pas faire, et qu'on a souvent ce problème à la fois du manque de légitimité et aussi du coup un peu du frein à la mise en action. Et donc ça, c'est... Enfin, moi, je me rends compte qu'en discutant, on se disait ça. J'ai pas mal observé comment faisaient les mecs autour de moi, surtout au début de ma vie professionnelle et après. Bah, déjà parce que j'étais entourée de beaucoup de mecs, et des professeurs aussi, puis des professionnels, etc. Et puis dans ma vie perso aussi. Et je me suis vite rendu compte qu'ils avaient souvent pas les mêmes réflexes que moi. C'est-à-dire, j'attendais souvent mon tour ou j'écoutais avant de savoir faire mille fois et tout. Et ce qui revenait souvent à ne pas avoir accès aux outils ou aux choses à faire. Et j'ai remarqué que dans ces contextes, ils étaient à l'aise pour tenter des trucs qu'ils n'avaient jamais fait, donner leur avis, prendre en main la situation, on va dire, et qu'ils se tournaient plus facilement aussi vers d'autres hommes pour échanger ou se passer le relais. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait essayer un peu de faire pareil. Donc je me suis retrouvée à imiter, à faire un peu du forcing parfois, ou à faire beaucoup, enfin ce que je considérais comme beaucoup pour essayer de prendre une place. En tout cas, cette situation, elle est d'autant plus complexe. Enfin, franchir ce frein un peu intérieur, c'est d'autant plus compliqué quand on est avec d'autres personnes qui n'ont pas forcément ce frein-là, par plein de, avec, enfin, à cause de plein de choses. Mais du coup, voilà, c'est un peu ce qu'on s'est dit.
Et du coup, on a voulu un peu aller chercher des astuces pour essayer de contourner un peu ce problème de mise en route. Je me souviens qu'on a, pendant notre préparation, on a parlé de la question du droit à l'erreur, qu'en fait, il fallait qu'on s'autorise ce droit à l'erreur. En fait, on a le droit. Parce qu'il y a des fois, en fait, tu veux tellement bien faire que tu vas pas faire parce que tu te dis si je prends l'outil et qu'en fait je me foire, là, c'est mort, quoi. Le mec, il va me regarder et il va vraiment, vraiment, enfin, c'est fini, quoi. Et on se disait qu'en fait, il fallait qu'on arrive à dépasser ce truc-là de bah, tu prends l'outil et tu te foires, et en fait, c'est pas grave, et en fait, tu y reviendras, et t'as le droit de te foirer aussi, quoi. On s'était dit que c'était un truc qui était au final assez important parce que c'est une des choses qui peut nous empêcher de nous mettre en action, quoi.
Oui, alors qu'en fait, enfin, on est comme toute personne normale, on peut rater la première fois qu'on fait quelque chose, ou on n'est pas assez musclé la première fois qu'on fait une action, etc. Mais ça peut confirmer l'idée reçue qu'il y a en face, genre, ah, je savais qu'elle aurait du mal à soulever ce sac.
C'était
Et donc,
sûr.
voilà, des fois c'est ça pousse un peu à rester dans l'inaction par peur de cette première réaction, on va dire.
Ouais, carrément. Après, on s'est dit que bah, il fallait peut-être aussi qu'on aille piquer un peu du côté de la confiance qu'ont les mecs et que présentent les mecs dans ces situations-là. Parce que, comme disait Meryl, il y a des fois, on a l'impression qu'ils savent faire parce qu'ils y vont à donf. Et en fait, bah, il y a des fois, ils savent pas plus faire que nous, mais c'est juste qu'eux, ils ont osé y aller. Et on se disait que peut-être que ce serait bien en fait, qu'on se permette en fait, aussi, nous, d'y aller, même si on ne sait pas faire, en fait, et de prendre cette place-là, enfin, d'accepter de prendre cette place de la personne qui s'impose un peu pour aller chercher. Mais avec l'idée que on n'a pas envie de passer évidemment dans l'extrême inverse de prendre la place et de prendre toute la place. Et que du coup en gardant un peu bah, l'empathie et l'humilité nécessaires à ce que bah, de pas écraser les autres quoi, mais d'arrêter en fait d'avoir tout le temps peur et de pas y aller quoi.
Et c'est vrai que, enfin, ce que tu dis, ça me parle parce que je me suis déjà retrouvée dans la situation d'essayer de faire beaucoup, voire trop un peu, d'être vraiment copier l'attitude que je voyais en face de moi, plutôt masculine, et me dire, mais ça me plaît pas trop, c'est pas trop moi en fait, ça, je suis pas trop dans ma place. Et heureusement, il y a aussi des expériences que je trouve inspirantes, enfin, des amis, eux, qui sont très fortes et qui donnent confiance, enfin, que j'ai un peu observé autour de moi, ou à qui j'ai emboîté le pas, des amis paysagistes ou architectes ou charpentières ou agricultrices. Enfin, et je trouve que c'est plutôt inspirant de voir d'autres femmes faire ça. Et j'ai plusieurs amies, femmes collègues avec qui je travaille aussi et avec qui on forme des alliances assez solides, et le fait de travailler aussi avec elles, ça me renforce. Ou alors avec des collègues hommes alliés qui se positionnent différemment aussi, ça, c'est intéressant. Donc, enfin, en tout cas, je me dis qu'au fur et à mesure, j'arrive à me constituer un réseau safe un peu, et que c'est un des intérêts d'être indépendante, enfin, dans la manière de trouver les personnes avec qui travailler, avec qui c'est plutôt chouette. Et je trouve que ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que le fait d'être une femme, ça permet de donner confiance à d'autres femmes qui ont moins l'habitude. Enfin, t'en parlais un petit peu au début. Et là, je pense notamment au chantier participatif, où du coup, ça établit un rapport avec d'autres femmes que je suis amenée à rencontrer dans ce cadre-là, et avec qui je trouve que du coup, il y a un lien autre pour elles qui s'établit sur les savoir-faire manuels et pratiques.
Carrément. Et du coup, une autre astuce, c'est bah, la non-mixité. Hein.
Voilà.
Et du coup, si tu veux nous présenter un petit peu l'extrait à suivre.
Oui, voilà, on a choisi un petit extrait du podcast Les couilles sur la table de Victoire Tuillon. Elle invite une philosophe qui parle d'écoféministe, et donc d'écoféminisme et d'écoféministe aussi. Et elle parle donc notamment des ateliers militants qui ont lieu à Greenham Common en Angleterre. C'était des camps anti-nucléaires qui ont été pendant plus de 20 ans tenus par des femmes. Et donc elle fait un petit écho aussi aux ateliers en non-mixité qui ont lieu à Bure et aux camps complètement féminins qui du coup, enfin où les femmes font tout de A à Z et où du coup elles expliquent que ça les renforce aussi de faire ça toute seule de A à Z, quoi.
Cette base militaire, bon bah avec son aspect de base militaire, quoi.
Donc viril aussi, parce
oui,
que c'est des soldats
barbelés,
masculins qui sont dans cette attitude très rigide, comme ça, le montant en avant, que des mecs.
Oui.
Et en face, t'as des militantes féministes habillées, bah, un peu comme des hippies, enfin
oui.
À la sauce années 80, en train de danser, en train de chanter, en train de leur faire des grimaces, en train de les provoquer, en train de... Mais pas du tout dans un affrontement viriliste, justement.
Exactement.
Pas du tout comme on va vous attaquer à coups de pierre ou on va lutter, mais autrement.
Oui, et ça, on voit bien sur les images et dans les récits que les policiers britanniques, avec leurs casques super hauts et tout, ils savent pas trop comment réagir, en fait.
Mais ce camp-là, donc, qui réunit très très vite des milliers de femmes, il est vite décidé que ça va être un camp en non-mixité.
Oui.
Alors pourquoi et qu'est-ce que font les hommes pendant ce temps-là?
Alors la non-mixité, c'est une pratique qui a été souvent utilisée dans le mouvement écoféministe et dans d'autres mouvements féministes et qui est souvent mal comprise. C'est-à-dire on va souvent percevoir ça comme une exclusion des hommes, un rejet, comme si c'était forcément une marque d'hostilité. Dans le mouvement écoféministe, c'est une forme qui a souvent été utilisée un peu comme une sorte de cocon ou d'incubateur pour permettre aux femmes, voire les forcer, à adopter un certain nombre de comportements et développer des savoir-faire et des compétences qu'elle développerait pas s'il y avait des hommes. Par exemple, la prise de parole en public, le bricolage, tous les trucs qui demandent de la force, de la rapidité, ou assez spontanément, en fait. Les choses se mettent en place dans un groupe mixte, voilà, un peu spontanément, les choses vont se mettre en place de façon genrée, assez traditionnelle.
Ouais, donc les mecs vont faire l'électricité, ils vont monter les chapiteaux, ils vont aller couper du bois, ils vont faire je sais pas quoi, parce qu'on se dit, bon,
ça va aller plus vite, c'est plus facile.
Voilà. Et puis, ils ne savent pas cuisiner. S'ils ne savent pas cuisiner, bah, les filles, elles vont peut-être plus se charger de la cuisine et tout. Mais ça, je l'ai vu dans le camp écoféministe à Bure.
Oui.
Il y avait plusieurs centaines de femmes. Bon, bah, j'étais pas trop sceptique par rapport à cette histoire de non-mixité, mais vraiment, si jamais un jour vous avez l'occasion, chère auditrice, à participer à un événement en non-mixité, c'est quelque chose d'inexplicable, justement, là, qui n'est pas que intellectuel ou que théorique. C'est-à-dire qu'on se sent complètement différente, en fait. On a l'impression qu'on a la place de prendre sa place, justement.
Oui.
Et on est libéré du regard masculin. C'est très curieux comme.
Donc voilà, ça vient conforter un peu ce qu'on disait avant. Et d'ailleurs, moi, je le vois aussi, enfin, je le vis aussi dans mon quotidien. Quand notre salarié, il n'est pas là, et ben, je prends plus de place, en fait. Parce que souvent, il va faire des choses un peu difficiles. C'est un très bon soudeur, enfin, il a plein de super qualités, mais mine de rien, ben, quand il est là, moi, j'arrive pas à prendre ma place. Et quand je suis toute seule, du coup, pas forcément avec d'autres copines, mais en tout cas, toute seule, je prends plus de place, quoi. On passe à la suite. Donc, on avait envie de creuser un peu pourquoi est-ce qu'on en est là, pourquoi est-ce qu'on a du mal à se mettre en mouvement souvent. Moi, j'ai un peu réfléchi à mon cas perso et en fait, je sais que ça vient aussi du fait que j'y ai jamais été habituée, en fait. J'avais pas du tout des parents. Alors là, pour le coup, nous, c'était pas genré chez nous, personne faisait de bricolage, mais il n'empêche que on m'y a jamais amené, en fait. On m'a jamais dit, tiens, tu pourrais en faire. Et moi, je pense que ça a beaucoup participé au fait que je suis complètement une novice, en fait, et je le suis toujours, hein, et ça va durer encore un bout de temps. Et en fait, moi, je me suis souvent dit que, et je le vois aussi un peu, par exemple, avec mes neveux qui sont deux garçons et auxquels on va offrir, par exemple, une trousse à outils, en fait, pour Noël. Moi, je pense que j'ai jamais eu de trousse à outils quand j'étais enfant. Et du coup, la différence entre une vis, un clou, la différence entre un tournevis et je sais pas quoi, moi, je suis encore en galère, encore aujourd'hui, cet après-midi, en bricolant, à savoir dans quel sens on visse, dans quel sens on dévisse, en fait. Et en fait, tu réalises que quand c'est pas des trucs que t'as appris enfant, ou que t'as appris au cours de ta vie et qu'on t'y a jamais amené, mine de rien, tu pars de loin et forcément, quand il s'agit de faire un truc en urgence ou autre, tu vas avoir tendance, enfin moi, je vais avoir tendance à laisser quelqu'un qui sait faire, quoi. Et je pense que ça m'handicape beaucoup aujourd'hui d'y avoir jamais été amenée ni à l'école, ni dans les jeux, ni nulle part, quoi.
Ouais, je suis complètement d'accord. Je trouve qu'en tout cas, dans l'éducation et la socialisation, souvent on a une représentation des petites filles qui vont pas avoir envie de faire tel ou tel truc. Enfin, dans mon cas personnel, j'ai un père qui est très bricoleur et surtout de mécanique. Et on est trois filles, on n'a pas trop appris la mécanique avec lui. Je trouve ça un peu dommage parce que maintenant, enfin, il dira, et moi je dirais aussi que c'est peut-être pas ma passion, mais c'est là où on revient au sujet de qu'est-ce qui nous plaît ou pas finalement, dans un sens. Mais en tout cas, ça nous a jamais été proposé comme quelque chose qu'on aurait pu aimer faire. Et moi, j'ai deux fils et je vois bien les tentations des jeux autour. Voilà, ce que tu dis, le kit de bricolage, les choses qu'on va plutôt, qui vont leur être offertes, etc. Donc, je me dis qu'effectivement, quand on est un petit garçon, il y a plus de chances de comprendre ce que c'est une perceuse si t'en as une à 2 ans et que...
Ou des tracteurs, tu vois.
Ou des tracteurs, et ouais.
Dans mon cas, par exemple. Et c'est vrai qu'on se disait que ce qui est aussi intéressant, c'est ce que tu disais aussi par rapport à ton père, c'est qu'on ne te laisse pas trop le choix de savoir si ça t'intéresse ou pas quand t'es enfant ou quand t'es même jeune adulte. C'est-à-dire que t'as plein de mecs qui vont partir du principe que ça ne va pas t'intéresser, en fait. Donc s'il y a un chantier qui se fait, ils vont solliciter l'autre mec qui est présent, qui, ça se trouve, on n'a rien à foutre, t'as pas du tout envie d'apprendre. Mmh. Mais spontanément, en fait, on va plutôt lui proposer à lui parce que de base, ça peut pas t'intéresser en tant que meuf, quoi. Et on se disait que tu finis par intérioriser le fait que ça t'intéresse pas. Et je pense que moi, je me découvre aussi des choses que j'apprends à faire et que je trouve hyper chouette, en fait. Genre conduire un tracteur, moi j'adore. Et pourtant, j'étais plutôt dans l'idée que ça me plairait jamais, en fait. Donc voilà, on n'a pas creusé plus hein, toutes les raisons sous-jacentes, etc. Mais c'était un peu de nos expériences. Donc du coup, on va se redonner un peu de peps là. On va faire une petite pause musicale avec Beyoncé. Et on revient après pour se demander pourquoi est-ce qu'on est quand même dans ces métiers-là malgré toutes ces canards. Donc Who Runs the World de Beyoncé. Donc nous revoilà, vous êtes bien dans Détournement féministe sur Campus
sur Campus Tour, Radio Campus Tour, voilà, c'est ça, 99.5. Donc là, on va vous parler un peu de ce qui nous a quand même poussé à faire les métiers qu'on fait. Et donc, dans ces métiers assignés plutôt masculins, on a remarqué en discutant qu'on avait quand même une attirance commune pour les codes et les représentations et les vêtements et voilà, l'esthétique un peu qui est liée à ces métiers et ce que ça nous renvoyait aussi de nos genres et de nos corps. C'est quelque chose qu'on a partagé en discutant. Par exemple, moi, je sais que j'ai toujours adoré les grosses chaussures à crampons, les futs larges et sales ou les gros pulls et les couleurs fluo, enfin, et que ça colle en fait avec les vêtements de travail que j'ai. Ou, je sais pas, les muscles et tout, bref, des codes qui sont plutôt attribués masculins. Et donc, en tant que jeune femme, quand j'ai découvert que je pouvais porter tout ça pour des raisons pratiques et qu'en plus ça m'attirait dans mon milieu professionnel, j'étais assez contente, enfin, parce que je me sentais plutôt marginale avec ce genre de goût au lycée ou au collège. Et donc, je me sens plutôt bien dans mes pompes quand je suis en habit de travail, en fait. Ça, c'est... Et je trouve que c'est important aussi dans ce qui nous attire dans... Enfin, dans ce qui m'attire, mais en tout cas dans ce que je fais.
Ouais, moi je suis d'accord. On va revenir après sur la question du côté corps puissant, mais je sais que moi aussi, cette histoire de... Moi, ça m'a toujours gonflé d'avoir à m'habiller tous les jours. Ça va être très polémique ce que je vais dire, mais j'ai fait une partie d'école avec des uniformes et moi, j'ai kiffé ça. Donc voilà, je sais que je vais créer la polémique, mais moi, j'ai trouvé ça chouette. Et là, c'est un peu pareil. En fait, j'ai l'impression d'avoir un uniforme, de ne pas avoir à réfléchir tous les jours comment je m'habille. Et surtout de m'en foutre, en fait, d'avoir... de pas être super top, etc. Alors moi, c'est un peu particulier dans le sens où on reçoit un peu de public, mais pas tant. Enfin, j'ai pas trop de représentations à faire à l'extérieur, donc c'est sûr que je peux me permettre ça. Mais en tout cas, j'ai bien vu à quel point ça me permettait de me sentir plus forte, je pense, là-dedans, quoi.
Oui, c'est vrai que moi, je suis un petit peu plus souvent dans des espaces publics ou avec des personnes autour de moi, donc il y a un peu quand même un truc où je vais faire un petit peu attention quand même, je sais pas, avec une chemise ou quelque chose qui fait un peu... sérieux, entre guillemets. Mais en tout cas, quand même, les vêtements de travail, je les trouve assez, assez stylés. Il y a quelque chose, je trouve, dans le rapport aussi au corps, là, c'est ce que tu disais, mais un peu la découverte du corps fort aussi, utile. Et moi, ça m'avait. Ça, je me rappelle des découvertes faites en me disant que j'étais capable d'exploits un peu, enfin, de choses physiquement importantes. Récemment, une femme m'a dit, avec qui j'ai fait un chantier, m'a dit à propos de creuser des trous, elle m'a dit « Waouh, c'est plus physique que de courir 10 km !» Et pour moi, c'était hyper valorisant, parce que je suis pas trop sportive. J'ai toujours été nulle en sport, et donc j'ai eu plutôt l'impression dans mon enfance et dans mon adolescence que j'étais capable de rien physiquement, enfin que ni en sport, ni en danse ou autre, parce que j'ai pas trop le sens du rythme ou pas la grâce et tout ça. Et donc, la capacité de mon corps à être bon pour quelque chose et endurant ou à supporter le froid, les charges, les contraintes physiques, la fatigue et tout, ça m'a et ça me fait encore beaucoup de bien, quoi, dans mon rapport à moi-même.
Ouais, moi, c'est un peu pareil. Moi, c'est un peu l'inverse. J'étais plutôt douée en sport quand j'étais enfant et puis j'ai tout lâché au jeune adulte, la catastrophe, quoi. Et en fait, il y a eu un peu ce truc de ce que tu m'avais dit, quoi. Ouais, quand on avait préparé l'émission, c'est la possibilité au quotidien, sans avoir à faire de sport, d'être quand même en forme, en fait. Et moi, je sais que c'est un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est de sentir que tu te muscles dans ce que tu fais tous les jours, en fait. Enfin, et que ton corps, il est en forme. Et puis, je trouve qu'il y a... Enfin, moi, ça fait pas longtemps que je fais ce métier-là et je sens que ça vient au fur et à mesure en fait. Et moi c'est drôle, au début un sac de 25 kilos de farine c'était impossible à porter ou c'était difficile, et maintenant j'y arrive. Alors il y a toute la crainte de comme t'arrives à porter 25, tu vas porter 30 puis 40, et en fait faut quand même faire gaffe, parce que c'est pas parce que ton corps il devient puissant qu'il faut pas quand même y faire attention. Mais en tout cas, ce truc de se dire en fait tous les jours j'ai ma part d'activité physique et dans lequel je pense que moi je me sens bien, parce que moi j'ai eu un taf de bureau avant. Et en fait, je sentais que j'avais l'impression de m'encrouter, en fait, et qu'en fait, j'avais pas envie le soir d'aller faire du sport. J'avais plus envie d'aller boire des bières quand on pouvait encore à l'époque. Mais que du coup, pouvoir le faire dans mon quotidien, en fait, c'est quelque chose qui me plaît, parce qu'en fait, je me sens bien quand je vais dormir, je me sens bien. Enfin, il y a un truc de. Et là, on en revient à notre histoire de métier de l'extérieur, en fait, et des métiers de terrain dans lesquels on se sent fort. Et du coup, moi, par rapport à ça, il y a aussi un peu un truc qui m'a donné envie. C'est une paysanne que je rencontre quand j'étais en stage et une meuf que j'ai trouvée trop ouf, en fait. Enfin, elle était toute petite, toute queuse. Elle n'était pas épilée. Et moi, je la trouvais radieuse, en fait, parce que tu sentais qu'elle était puissante, en fait. Et moi, je sais que c'est un exemple où je me suis dit, un jour, je voudrais être ça. Donc, je ne suis pas encore, mais ça viendra.
Et donc ouais, du coup, on est voilà, on a quand même, je trouve, cette image de puissance et de certains modèles qu'on peut avoir aussi. Après, parfois, cette vision du corps un peu puissant féminin, il peut être un peu détourné par la société ou par un peu le male gaze, en fait, plutôt, qui va vouloir à tout prix quand même sexualiser un peu cette image de la femme forte et puissante, mais qui est, comment dire, du coup... un gros cliché et puis qui n'existe pas, en fait, mais et puis qui fait un peu peur aussi, je pense.
Moi, j'ai une anecdote un peu rigolote là-dessus. J'ai fait les vendanges cette année en septembre. Et pareil, je m'habillais comme une... Enfin, nulle, quoi. Parce que tu travailles, t'as du raisin. Enfin, on s'en fout, en fait, au final. Et puis, le soir, en fait, j'allais me coucher tôt. Donc, je suis pas sûre que je me sens me changer. Je me douchais quand même, mais voilà. Et en fait, arrive la fin des vendanges, arrive le berlot, la fête avec tous les vendangeurs, donc que t'as côtoyé pendant 10 jours, en fait. Et il y avait pas mal de mecs dans l'équipe dans laquelle j'ai bossé, et je me mets en robe, et là, tout d'un coup, tu deviens Lara Croft. On m'a quand même dit ça, tu vois. Du coup, et là, tu te dis, oh mon Dieu, c'est pas possible, quoi. Enfin, je passais d'une sorte de truc où j'étais même pas une femme à Lara Croft, et tu te dis, mais en fait, on s'en sort jamais. On n'y arrive jamais. Et du coup, c'est vrai que ça vient un peu questionner ce truc-là de, au final, nous, on a envie de se sentir... Enfin, ça nous fait du bien, ça nous renforce, ça nous conforte dans ce qu'on est. On a envie de ce truc de se sentir puissante, mais pas pour les mecs, quoi. Pas pour l'image qu'on va renvoyer. Enfin, on fait pas ça pour ça, on fait ça pour nous. Et en fait, on a quand même du mal à sortir de ça, au final, quoi.
Mmh. En tout cas, c'est un des gros écueils que parfois on rencontre.
C'est clair. Et du coup, petite anecdote par rapport à ça aussi, je fais un week-end avec des copains où on est pas mal de meufs à vouloir s'installer en agriculture ou en tout cas à bosser dans des tafs comme ça. Et on commence à avoir une discussion, mais c'est drôle parce que j'ai écouté pas mal d'émissions pour préparer cette émission et en fait on réalise que c'est la thématique qui ressort à chaque fois sur les questions des métiers d'extérieur et tout. Les fringues de travail pour meufs, c'est la merde. Et donc non seulement tu trouves rien, d'ailleurs je suis en train de me chercher un pantalon et j'ai regardé sur Point P tout à l'heure et pantalon homme, pantalon homme, pantalon homme, donc je ne sais pas ce que je vais acheter. Et par contre, je vous conseille d'essayer, quand tu tapes fringues de travail pour femmes et que tu regardes les images qui sortent sur les moteurs de recherche, c'est du Lara Croft, quoi. En fait, ils ne te proposent pas du tout des fringues pour meufs que tu pourrais mettre, mais par contre, tu te retrouves avec tous les clichés de des fringues, bref, c'est un peu déprimant.
Ouais, mais c'est vrai que c'est un peu déprimant et en plus c'est aussi parfois pas sécurisant parce que notamment on en parlait à propos des équipements de sécurité, les gants de travail avec de petite taille qui vont être très très difficiles à trouver ou les chaussures de sécurité de petite taille ou alors si tu veux éviter d'être habillé en rose fluo entièrement. C'est quand même un peu la croix et la bannière dans tous les magasins spécialisés pour trouver des vêtements qui correspondent aux meufs pour le travail et qui sont à la fois confortables, pratiques et sécurisés.
Ouais, carrément. Ouais. Donc du coup, on va pas tarder à arriver au bout de cette émission. Du coup, on avait envie de dire que, on avait envie de conclure en disant que, en fait, ce qui est un peu fatigant dans nos métiers, c'est qu'on passe notre temps à tout contrôler. En fait, on se disait même au niveau des fringues, c'est vrai qu'on se l'est pas redit ça dans l'émission, mais que on fait attention à ce que nos pantalons ils tombent pas trop bas quand on se baisse, que on est habillé un peu bien pour la représentation, mais pas trop bien quand même parce que sinon tu sais pas trop ce que tu vas te prendre comme réflexion. Tu réfléchis tout le temps à est-ce que je porte lourd ou pas, ou est-ce que non, je fais quand même attention à moi, est-ce que je fais des trucs que j'aime ou pas. Enfin, en fait, on passe notre temps à se poser des questions et à tout contrôler, quoi. Et c'est un peu dur, en fait. Alors, on sait très bien qu'il y a plein de questions qui se posent dans les métiers plus socialement, plus féminins, et il y en a plein qui sont similaires, mais c'est vrai qu'on trouvait que c'était pas facile, quoi.
Et que c'était très exigeant pour nous. Enfin, qu'on avait intériorisé une grosse exigence sur tout ça et que. Voilà, que c'est parfois difficile de s'alléger un peu de toutes ces contraintes.
Et il y avait aussi deux, trois autres, enfin, en tout cas, deux autres thématiques qu'on n'aura pas le temps d'aborder là, mais on fera peut-être une deuxième émission, ou en tout cas, on aimerait bien faire parler des gens autour de nous là-dessus. Donc, il y a la question du quand tu travailles, donc nos métiers d'extérieur, de terrain, en couple. En fait, en tout cas, moi, dans le cadre du monde paysan, ça arrive souvent que tu travailles en couple hétéro sur ces métiers-là. Et en fait, on en discutait avec Meryl et on se disait que c'est fou parce que très souvent, on en revient à des schémas assez genrés de, par exemple, face à l'urgence, en fait, c'est le mec qui va faire le truc plutôt d'extérieur ou plutôt dur, alors qu'on est tous les deux formés et tous les deux capables de le faire. Et la meuf, elle va retourner à des choses un peu plus genrées, en fait. Voilà, et on réalisait à quel point on avait envie de continuer à réfléchir à cette thématique, parce que, enfin, moi, elle me traverse, hein, c'est sûr. Mais en fait, dans des couples qui se vaudraient modernes, et dans des situations de travail extérieur et de... malheureusement, il y a plein de choses qui reviennent vraiment au galop, quoi. Et après...
Et oui, la deuxième chose qu'on aimerait bien aborder une prochaine fois, ce serait aussi la différence entre le travail libéral et, ou indépendant, en tout cas, et le travail salarié sur ces métiers. Et voilà, comment sont vécues aussi les situations en fonction de si on est dans une entreprise qui est plus ou moins grosse ou si on est à son compte, comme là. Nous, on vit des situations qui ne sont pas les mêmes que des personnes qu'ont des chefs, par exemple, ou qu'ont plein de collègues, et voilà. Enfin, bref, du coup, ce serait vraiment quelque chose qu'on aimerait bien aborder en allant questionner des femmes qui travaillent dans ces métiers-là.
Carrément. Et du coup, toi, tu voulais conclure quand même l'émission sur le travail par...
Que le fait que le travail n'est pas pour autant, pour nous, l'émancipation ultime. On tient à le préciser, voilà.
On aime nos métiers, mais on sait toutes les limites qu'il y a à travailler, à exercer ces métiers-là.
C'est ça.
Donc voilà, merci de nous avoir écoutés. Donc on reviendra peut-être avec des témoignages d'autres meufs. Puis nous, continuer à discuter de ces thématiques parce qu'on a adoré préparer cette émission. C'était vraiment trop bien. Et à chaque fois qu'on parlait, on rajoutait des thèmes. Et je pense qu'il y en a encore 10 000 à aborder. Et du coup, on va passer une petite musique justement en lien avec notre conclusion d'émission sur le travail, Sexy Sushi, Je n'aime pas travailler. Salut.
Salut.